On commence ces chroniques BD avec trois albums qui sont dans, alors pas tout à fait la même collection. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il y en a deux qui sont dans la même collection et un qui est un petit peu différent, mais pourtant qui est à peu près le même dans le même univers. Les trois sont aux arènes BD. Alors d'abord, on a l'incroyable histoire de la préhistoire de Jean-Paul Demoule, Benoît Simat et Lucas Landais. Donc aux éditions des Arènes BD, nous avons aussi l'incroyable histoire de l'automobile, Jean-Louis Loubet, Laurent-Frédéric Bollé et Christophe Merlin pour les dessins. Et puis nous avons Histoire de la mer. Là, c'est aussi aux Arènes BD et c'est de Mats et Georges Maillet sous la direction scientifique d'Olivier Chaline et François Lefebvre. Alors les trois, pourquoi je vous dis que c'est un peu dans la même collection? Parce que depuis un moment, les arènes BD ont commencé avec Histoire de sexe en particulier. Et puis après, il y en a eu plein d'autres sur le vin, sur la politique, sur plein de choses. L'incroyable histoire de. Et puis à chaque fois, il y a un thème différent. Il y a même des nouvelles éditions pour rajouter des choses qui se sont passées entre-temps. Et donc, l'incroyable histoire de l'automobile, évidemment, on va repartir sur l'histoire, la genèse de l'automobile. Depuis 150 ans, la voiture existe. Et puis, tout a commencé en 1770, exactement en France, grâce à Nicolas-Joseph Cugnot, qui est un ingénieur militaire, qui va concevoir donc un chariot avec une grande marmite à l'avant, et puis, du coup, qui va donc marcher grâce à la vapeur. Et puis ensuite, tout ça va être donc amélioré, va être changé, on va trouver des nouvelles idées avec le fardier par exemple. Et puis ensuite, arrivent les moteurs grâce moteur à pétrole, le diesel et ainsi de suite. Tout ça, c'est expliqué, Ford, etc., les grands noms, Renault. Tout ça, c'est expliqué dans ce très très bon album. Alors évidemment, quand on aime ce thème-là, évidemment, ça va tout de suite nous marquer et nous parler. Et surtout que Christophe Merlin est un spécialiste quand même du dessin des voitures, parce que depuis des années, il travaille autour de cet univers dans ses albums de bande dessinée. Et là, l'incroyable histoire de l'automobile est vraiment superbement bien dessinée, superbement bien précise. Et puis pareil, Laurent-Frédéric Bollé est un grand spécialiste du sport automobile en particulier. En plus d'être scénariste de bande dessinée, on le connaît même plutôt avant le scénario de BD dans l'animation à la télé de tout ce qui est automobile, sport automobile. Et Jean-Louis Loubet, lui aussi, est un spécialiste, c'est un historien et il est spécialiste de l'industrie automobile dans les universités et il fait des cours. Donc les Arènes BD donc proposent l'incroyable histoire de l'automobile dans cette collection très très prisée et très foisonnante avec énormément de détails parce que à chaque fois c'est évidemment fait avec des scientifiques et l'incroyable histoire de la préhistoire donc de Jean-Paul Demoule et Benoît Simat au scénario Jean-Claude Demoule est un archéologue et préhistorien, Benoît Simat est reporter et journaliste économique. Et puis Lucas Landais, lui, il est dessinateur, donc du coup, il s'est plongé dans tout cet univers donc qui remonte à 7 à 8 millions d'années, et on parle de nos ancêtres les plus anciens. Et du coup, les humains donc sont arrivés parce qu'ils se sont séparés des bonobos, les singes qui ont été nos plus proches cousins, en tout cas nos derniers cousins. Et donc, du coup, il y a moins 7 millions d'années, a été créée la première lignée de proto-humaine, ça s'appelle. Donc, toute cette histoire, c'est un voyage vraiment dans nos origines. C'est drôle, il y a vraiment plein de détails, encore une fois. Donc, c'est vraiment très documenté, très didactique. Et en même temps, on est vraiment sur quelque chose de sympa à lire. Honnêtement, si vous êtes intéressé par le sujet, vous allez pouvoir le lire d'une traite. Autrement, on va piocher souvent dedans. Moi, je sais, c'est plutôt comme ça que que je lis ces albums, que j'aime beaucoup, l'incroyable histoire. À chaque fois, je vais plutôt chercher des informations. Je ne vais pas lire tous les chapitres d'un coup, parce que des fois, ça peut être un petit peu. On essaye de se concentrer. On est quand même obligé de se concentrer pour lire ces albums-là. Mais comme il y a beaucoup d'humour qui, quand même, en ressort, les dessins, en plus, souvent, sont bien choisis. Ils sont bien travaillés pour pouvoir pour avoir une lecture très agréable et non pas juste un gros texte, un gros pavé pour ensuite avoir un petit dessin à côté. On est vraiment sur une vraie bande dessinée qui est très très bien conçue. Donc l'incroyable histoire de l'automobile, l'incroyable histoire de la préhistoire. Et pourquoi je vous dis qu'il y en a un troisième que je ne mettrai pas tout à fait dedans, parce que histoire de la mer, c'est pas l'incroyable histoire de la mer, c'est l'histoire de la mer où on va remonter à 4000 ans d'histoire, d'exploration, de connaissances autour des océans, des mers qui sont sur Terre. Et là, c'est un album qui n'est pas dans la même collection parce que la couverture est rigide, parce que c'est un peu plus grand même que la collection de base. Donc je ne sais pas pourquoi elle n'est pas rentrée dans cette collection-là. Mais en tout cas, pareil, vous allez aller découvrir les grands conquérants, évidemment, les grandes étapes de l'exploration, quand on ne savait pas que les Indes, c'était pas tout de suite face à l'Europe, mais c'était d'abord l'Amérique. Et donc, évidemment, tout ça, ça a été comment les hommes ont pu dompter la mer, comment ils ont pu découvrir des choses et toute l'évolution autour de la connaissance des mondes maritimes et des mondes marins. Donc du coup c'est très intéressant parce que pareil, si on aime ça, on va découvrir peut-être des petits détails qu'on connaissait pas, et puis si on connaît pas, bon, on se plonge dedans avec donc Mats qui est lui écrivain et scénariste de bande dessinée, mais il y a Georges Maillet qui est diplômé de l'école Émile Cole, lui c'est le dessinateur, et puis il y a la direction scientifique d'Olivier Chaline et François Lefebvre qui eux sont des spécialistes par exemple, Olivier Chaline, il dirige la Fédération d'histoire de l'archéologie maritime, et François Lefebvre, il est professeur d'histoire grecque à la Sorbonne. Et donc, évidemment, ils connaissent toutes ces origines et comment l'humain et l'homme a pu traverser les océans pour découvrir des nouvelles terres, des nouvelles choses à peupler, peut-être même à détruire par moment, mais en tout cas, et puis même comment on peut détruire la terre, la mer aussi, alors que pourtant ça fait partie de notre patrimoine et qu'on arrive quand même à la détruire, à la polluer. Tout ça, c'est dans ce très très bel album. Alors en plus, c'est des gros albums à chaque fois. Là, c'est 300 pages minimum à chaque fois. C'est quand même de très très bons albums. Donc c'est aux Arènes BD. L'Histoire de la mer est en partenariat avec la Sorbonne Université. Donc Histoire de la mer aux Arènes BD, l'incroyable histoire de l'automobile et donc l'incroyable histoire de la préhistoire. Trois tomes, nouveaux tomes de tout ce qui est comme ça, livre didactique, vraiment à mettre entre toutes les mains, parce que là, il n'y a pas de génération de lecteurs. Tout le monde va pouvoir être intéressé, on va dire peut-être quand même à partir du collégien. Mais collégiens, vraiment, vont vraiment pouvoir trouver des informations qui seront très intéressantes pour eux. Donc ces trois albums sont aux éditions des Arènes BD. Enchaîne avec 1949, c'est un récit complet de Dustin Weaver qui est sorti aux éditions Delcourt dans la collection Contrebande. En 1949, on va suivre un polar qui va devenir très rapidement de la science-fiction aussi, je vous explique. En 1949, on suit l'inspectrice Blanc, qui est une très grande enquêtrice criminelle. Malgré le fait que ce soit un monde d'hommes, elle est quand même une des meilleures. Elle est calme, déterminée, elle a vraiment un sixième sens qui lui permet vraiment de comprendre et d'anticiper même ce que va faire un criminel. Et donc on va la voir mener une enquête et surtout la voir aussi, on va revenir un petit peu sur son passé. Et puis la nuit, chaque nuit lorsqu'elle dort, elle va se retrouver 200 ans dans le futur. Et elle se retrouve donc dans une autre vie, mais où elle a vraiment l'impression de vivre aussi des mêmes choses, à part qu'elle fait des enquêtes aussi, et elle est en train de suivre un tueur qui apparaît, un serial killer, qui laisse des victimes couvertes d'un étrange liquide gris. Et donc, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi la nuit, elle se transforme et elle se transporte dans une autre ère, dans 200 ans après, donc avec toutes les évolutions, etc. Et c'est plutôt intriguant parce que au départ, on ne comprend pas bien, est-ce que c'est les descendants, est-ce que c'est quelqu'un ? Et non, c'est vraiment elle qui... Alors, il y a un petit peu ce problème-là au départ, je trouve, de compréhension de c'est la même personne qui se retrouve 200 ans plus tard. Il y a un manque d'explication au départ qui m'a perturbé, Mais une fois qu'on a compris et que c'est vraiment qu'on comprend que la nuit, elle se déplace 200 ans plus tard ou qu'elle revient le jour 200 ans avant, bah, du coup, voilà, ça devient plus clair. Et c'est très intriguant, superbement bien dessiné. Vraiment, les dessins sont magnifiques et donne envie de continuer à lire à chaque fois qu'on ouvre les pages. Et du coup, ben, c'est un bon thriller de science-fiction, du coup, comme je vous disais. Certes, c'est un thriller et un polar au départ, parce qu'on suit cette inspectrice, mais qui va continuer à être inspectrice, mais dans le futur. Et donc là, automatiquement, on est dans la science-fiction aussi. Ça s'appelle 1949. Aux éditions Delcourt, dans la collection Contrebande. Et on va là aussi aller dans le passé cette fois-ci, parce qu'on est plus sur un western, la balade des frères Blood, récit complet de Brian Azzarello au scénario, Eduardo Risso au dessin. Et c'est toujours pareil aux éditions Delcourt, dans la collection Contrebande. On est au 19e siècle, en plein Far West, et on va suivre des héros un tout petit peu spécifiques, un tout petit peu spéciaux, parce qu'on va suivre trois enfants. Ils vont traverser le Texas, parce qu'ils doivent secourir leur mère qui a été kidnappée par une troupe de hors-la-loi, qui, en plus, cette troupe de hors-la-loi a tué leur père, qui était pasteur. Et donc, du coup, ils vont devoir remonter la piste de cette troupe de hors-la-loi pour pouvoir se venger et sauver leur maman, mais à part que ce sont des enfants. Il y a vraiment des vrais gamins, quoi. Ce ne sont pas des adultes. Le plus grand doit avoir 12 ans, quoi. Et du coup, ben, c'est assez pareil, intriguant. On va voir toute la dureté de ce qu'ils vont devoir traverser. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont leur venir en aide ou pas ? En tout cas, ils sont bien, bien déterminés. En même temps, ils n'ont pas grand-chose à perdre parce qu'ils ont déjà un peu tout perdu, que ce soit leur père ou alors leur maman, qui pour l'instant est portée et disparue. La balade des frères Blood, ben, évidemment, Eduardo Risso au dessin, ben, on connaît, hein, un extraordinaire dessinateur argentin, qui est plutôt maître du noir et blanc, et là, il y a des couleurs quand même dessus, mais on lui doit quand même « Je suis un vampire »,« Chicanos »,« Point de rupture », par exemple, qui sont excellents, des excellents dessins. Mais il a aussi travaillé sur Batman, Spider-Man, X-Men. Et puis Brian Azzarello, qui n'est pas non plus à sa première bande dessinée, son premier scénario avec 100 bullets, Dread Bullets. Et puis Batman aussi, et puis pas mal de choses, Superman aussi avec Jim Lee. Donc du coup, un binôme de scénaristes, dessinateurs, donc d'auteurs vraiment expérimentés pour cette histoire hors norme, un peu banal et du coup très agréable à suivre, la balade des frères Blood aux éditions donc Delcourt dans la collection Contrebande. On reste dans le western avec, cette fois-ci, Woman of the West. C'est aux éditions Grand Angle. C'est Tiburce Auger qui a lancé cette collection et qui fait les scénarios. En effet, il y avait eu Go West, Young Man, Indians, Gunmen, Lawmen. Et il y a Woman on the West qui est donc la nouvelle sortie assez récente avec un collectif de dessinateurs et surtout de dessinatrices. Il y a quelques dessinateurs, mais très peu par rapport au nombre de dessinatrices, qui vont raconter le Far West, mais du point de vue de femmes qui ont été donc des emblèmes, mais qu'en fin de compte, on ne reconnaît plus, parce qu'on ne les connaît plus, justement. On ne les a jamais vraiment connues, parce que l'histoire les a complètement effacées. Alors, il y en a des connues, des moins connues. Et puis, on revient aussi sur des choses absolument horribles qui se sont produites, comme par exemple la stérilisation obligatoire des femmes autochtones pour que justement il n'y ait pas de reproduction donc de natifs. Et tout ça, c'est expliqué par des petits récits, des récits courts, de 5 à 10 pages, mais avec un fil rouge à chaque fois. On va suivre une journaliste qui va aller voir justement une femme assez âgée, chamane, qui est amérindienne, et qui va lui expliquer un petit peu justement les légendes de l'Ouest, mais féminine, et puis surtout les répressions qu'il y a eu, les difficultés qu'il y a pu y avoir pour les Indiens en particulier. Tout ça, c'est vraiment super bien raconté. Il y a plein d'histoires, en plus avec des dessinateurs et dessinatrices surtout, vraiment à un niveau extraordinaire. Quand je vais vous parler de Virginie Augustin, je vous parle d'abord des femmes les plus importantes. Virginie Augustin, Daphné Collignon, Elvire Decocq, Isabelle Detan, Nathalie Ferlu, Gaëlle Hersant, Miss Prickly, Héloïse Auger, Béatrice Tillier qui a fait la couverture et Laura Zucchieri, donc des femmes avec des styles différents, mais à chaque fois un niveau de graphisme impressionnant, chacune dans leur style, mais avec vraiment des particularités, mais avec vraiment une précision et une finesse la plupart du temps dans leurs dessins. Et puis on a Paul Gastine qui a fait la liaison, donc l'histoire de début de fin que l'on voit. Autrement, il y a Dominique Bertaille et François Bouc qui ont fait chacun aussi une petite histoire. Mais il est vrai que beaucoup d'autrices dans cet album et c'est vraiment réjouissant pour ça aussi. Women on the West, évidemment, Off the West, pardon, pas On the West. Donc, si vraiment vous aimez l'histoire du western, les Far West et ainsi de suite, vous allez vraiment apprécier, je pense, cette collection. Et en particulier celui-là qui est vraiment, comme je vous disais, comme il y a une prédominance des autrices, moi j'ai trouvé ça très intéressant pour ça aussi. Mais ce n'est pas que pour ça, parce que les histoires sont intéressantes, parce que justement à chaque fois qu'on parle des femmes dans l'histoire, il y en a très peu qui ressortent. Elles sont souvent mises en arrière parce que c'est souvent l'histoire a été racontée et transmise par les hommes. Et du coup, évidemment, les femmes étaient un petit peu édulcorées de toutes les histoires malgré leur importance. Et en sachant que derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme qui était derrière, évidemment. Donc ça s'appelle « Women of the West ». C'est sorti aux éditions Grand Angle et la collection complète est vraiment très très intéressante si vous aimez ça et surtout d'une qualité énorme. Alors vous pouvez en plus avoir, je pense qu'il existe toujours, la version luxe aussi. Il y a deux versions, l'édition classique et l'édition luxe qui a 10€ de plus mais qui est vraiment, je pense, avec vraiment mieux faite, avec une couverture surtout différente. Donc du coup, vous aurez des couvertures différentes si vous achetez l'édition de luxe. Peut-être donc du coup, être obligé d'acheter les deux. Et ça va être difficile. Parce que du coup, si on doit choisir, c'est toujours pas évident. En tout cas, l'édition classique est très belle et donne vraiment envie de la lire. Ça s'appelle donc « Women of the West, aux éditions Grand Angle. On continue avec Mademoiselle G., le tome 4, Les bonheurs de dire maman, c'est de Yves Sante au scénario, Laurent Véron au dessin, et c'est sorti aux éditions Dupuis. Mademoiselle J, c'est une jeune fille plutôt de bonne famille qui s'appelle Juliette de Saint-Éloi, et que l'on suit depuis un petit moment parce que son père est le patron de la Compagnie Générale Transatlantique et que du coup, on l'a vu dans sa première histoire. Il s'appelait Spirou et c'était en fin de compte vraiment pas Spirou mais on pensait vraiment que c'était lui. Et justement on va suivre cette jeune fille au départ qui petit à petit va devenir une femme à travers le 20e siècle parce que du coup on va suivre par étapes tout ce qu'elle a pu vivre. Elle est devenue photo-reporter, mais avant, du coup, on la suit dans d'autres aventures. Et surtout, elle n'a pas sa maman qu'elle a perdue. Elle est orpheline de mère. Son père, donc, comme je vous disais, est un grand industriel et un grand patron, en tout cas. Et en plus, elle a des problèmes de santé. Mais du coup, elle essaye de survivre à tout ça et surtout d'avancer et justement de s'émanciper, de se libérer un petit peu. Et là, dans ce quatrième épisode, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc elle entame une carrière de reporter écrivaine, c'est pas photo-reporter, c'est reporter écrivaine, et elle fait une séance de dédicace pour son nouveau livre. Et là, elle va rencontrer une religieuse vietnamienne qui est en panique parce qu'elle est poursuivie par un malfrat armé. Et du coup, elle va essayer d'en savoir plus sur cette femme et d'essayer de la protéger. Et cette femme va la mener sur la piste de sa mère. Et oui, elle croyait que sa mère était morte peu après sa naissance. Mais du coup, apparemment, elle aurait survécu et elle serait même peut-être donc au Vietnam. Voilà Juliette qui bouleverse tout son emploi du temps pour pouvoir essayer de suivre la piste. Elle va voir le médecin de famille. Et du coup, apparemment, sa mère aurait eu une deuxième vie, mais au Vietnam. Donc, voilà cette histoire. Alors, c'est toujours aussi bien écrit et aussi bien fait. On est plongé assez vite, toujours, dans le propos. Et cette héroïne est vraiment... Alors, elle n'est pas forte, elle est forte mentalement, mais physiquement, elle n'est pas obligatoirement forte. Mais par contre, elle a de l'audace, elle est courageuse. Elle va subir pas mal de choses, mais en même temps, elle va aller au bout de ce qu'elle veut découvrir. Et justement, c'est ce qui est bien, c'est que c'est pas quelqu'un de trop caricatural, je trouve. C'est une femme qui s'émancipe beaucoup dans les années 50, enfin même fin des années 40. Et alors que c'est pas si évident que ça à cette époque, évidemment, qu'une femme soit libre et puisse choisir elle-même ce qu'elle veut faire, elle conduit, et ainsi de suite. Tout ça, ce n'était pas obligatoirement monnaie courante à cette époque-là. Donc voilà, Mademoiselle J, qui va partir donc sur la piste de sa maman. Laurent Véron, évidemment, on le connaît maintenant un peu par cœur depuis Le Maltais et autres, mais aussi Boulet Bill. Enfin voilà, c'est un excellent dessinateur dans un style de Marcinelle, mais vraiment plus lâché, on va dire, un petit peu plus anguleux aussi, vraiment un magnifique style que j'adore. Vraiment, Laurent Véron, un style semi-réaliste qui est magnifique. On n'est pas dans le Spirou très rond comme on pouvait le voir chez Franquin, par exemple. Et on est vraiment sur quelque chose de plus réaliste, mais toujours aussi beau, toujours aussi bien fait, toujours aussi léché. Toujours aussi tendre aussi par moments. Je trouve absolument ces dessins magnifiques. Et du coup, le fait que dans cette série-là, il n'est pas obligé de lisser un petit peu son dessin comme il a pu le faire pour Boulet Bill, par exemple, bah, je trouve qu'on retrouve le Laurent Véron un petit peu bah, qui donne le Laurent Véron qu'on connaissait dès le départ, comme je vous disais, avec Le Maltais, par exemple. Si vous ne connaissez pas cette série, elle est maintenant trouvable que, je pense, d'occasion. Mais vraiment, c'est une excellente série aussi. Très drôle, Le Maltais. Et puis, il y en a eu d'autres. Hein. Il en a fait vraiment pas mal des albums. Mais Mademoiselle J, là, son dernier album, sa dernière série, je trouve, est vraiment très bien faite et très intéressante parce que n'est pas grandiloquent non plus. On n'est pas sur la grande, grande action. On est vraiment sur de quelque chose de très, très humain. Mademoiselle J, du coup, le tome 4, Le bonheur de dire maman, est sorti aux éditions Dupuis. Et vous avez bien compris, je pense, dans la façon dont je le présente, que j'ai beaucoup apprécié cet album. Un flic sous l'occupation, le tome 1. C'est un scénario de Philippe Richel au scénario. Parce que si c'est un scénario de Philippe Richel au scénario, c'est obligatoirement un scénario de Philippe Richel. Des dessins de Jean-Michel Beuriot. Et c'est aux éditions Glénat. Donc le premier tome est sorti. Là, dans cette période, on est en plein dans l'occupation, un flic sous l'occupation. En même temps, dans le titre, je crois qu'il y avait un petit indice. On est en 1940 et on va suivre des inspecteurs de police, Marsac, Brunet, Mercadier. Il y a un double meurtre qui s'est produit, c'est assez sordide. C'est un couple de personnes âgées qui a été cambriolé, abattu froidement. Et puis, ça rappelle quelque chose à Marsac, ça rappelle le mode opératoire d'un tueur qui s'appelle Lucien Grenier. Et il se dit, bah ouais, mais Lucien Grenier, normalement, il est en prison et il va enquêter un petit peu. Et en fin de compte, Lucien Grenier, qui avait été arrêté avant la guerre, bah, il découvre qu'il a été libéré. Libéré par qui ? Bah, par les Allemands, parce que les Allemands ont profité de fait d'occuper la France pour libérer des prisonniers, pour en faire un petit peu leur main armée. Voilà, donc du coup, ça a un petit peu retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que de nouveau, il va falloir aller chasser les personnes, mais en même temps, elles sont là maintenant au vu au sud de tout le monde, parce que du coup, c'est les Allemands qui ont décidé que non, ils se redonnaient une vertu, et du coup, les inspecteurs se font même plutôt nargué par justement Lucien Grenier et autres qui ont été libérés. Et c'est ce qui se passait vraiment en France. Beaucoup de repris de justice ont été libérés pour rendre service ensuite aux Allemands. Et voilà que c'est pas si évident que ça. Alors certains policiers avaient démissionné carrément et d'autres ont essayé de faire tant bien que mal avec ça. Et c'est pas toujours évident. Évidemment, il y a plein de trafics qui vont arriver. Et du coup, on va voir donc comment va essayer de s'en sortir Marsac en particulier, qui est ce fameux flic sous l'occupation. C'est plutôt intéressant parce que du coup, ça nous montre un côté de l'histoire. Richel et Beuriot ont toujours fait ça un petit peu, les Allemands résistants, contre l'Allemagne justement. Ils ont fait aussi, ils travaillent autour de ce thème-là en étant vraiment... en prenant un angle à chaque fois un peu différent. Donc le thème de l'occupation, on le connaît beaucoup en voyant les résistants, etc. Mais ces fameuses libérations de personnages qui étaient mis en prison par les Français et puis qui devient un petit peu la main armée des Allemands, ça, je ne le connaissais pas, à vrai dire. Après, ça paraît logique. Ça paraît logique dans l'idée des Allemands de les prendre pour pouvoir les utiliser ensuite. Ils sont redevables en fin de compte. Et du coup, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors évidemment, Beuriot, toujours un style réaliste, vraiment plutôt élégant et très lisible, donc très agréable à lire, qui se rapproche vraiment de la bande dessinée classique, mais toujours agréable à lire. Et du coup, ce premier tome est bien prenant. Et on a envie d'avoir la suite, on a largement envie d'avoir la suite, et on l'aura bientôt, je pense. Donc c'est Un flic sous l'occupation, le tome 1 seulement, du coup, pour l'instant, et c'est de Richel et Beuriot, aux éditions Glénat. Et puis encore, on va encore partir dans l'histoire, mais encore plus loin, il y a Jérusalem, tome 1, de Jean-Pierre Pecot au scénario, et Alexandre Jubran au dessin. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Histoire et Histoire. Là, on va vraiment nous raconter l'histoire antique et épique une des plus grandes cités emblématiques, en tout cas, qui a été disputée par beaucoup de peuples et qui est encore disputée malheureusement par beaucoup, beaucoup de peuples. Sion, Jérusalem, Al-Quds, c'est donc le même nom, c'est la même ville. C'était fondée en 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, ce sont des lieux sacrés de trois religions. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a évidemment un amalgame qui fait que les trois religions autour se disputent un petit peu Jérusalem. Donc, il y a le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre et la mosquée d'Al-Aqsa, pardon. Et ces trois religions sont obligées de coopérer dans cette cité antique. Et on va revivre un petit peu l'ambiance des débuts de Jérusalem, de la naissance de sa cité. Donc le premier tome vient de sortir, ce sera une trilogie. Et donc la cité de Jérusalem a été créée. Comment ? Vous allez le découvrir un petit peu. Si ça vous intéresse, évidemment, comment a été créée cette ville. Alors c'est un dessin très réaliste, très didactique dans l'album. Moi, je sais que ce n'est pas obligatoirement les albums que je préfère, mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire que cette série et cette trilogie existent. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien documenté et très précis. Après, il faut être vraiment, faut vraiment avoir envie de le lire parce que du coup, et vraiment être intéressé par le sujet. Je ne pense pas que ce soit une BD comme ça qu'on prend pour juste prendre un petit moment de détente. On est plutôt sur quelque chose de plus profond, et donc à suivre dans deux tomes supplémentaires. Donc ça s'appelle Jérusalem, tout simplement. Le tome 1 est sorti aux éditions Delcourt.
«
Je voulais vous parler maintenant d'un coup de cœur, un gros coup de cœur de Bulle en Stock, Le Serment de Mathieu Gabella au scénario, Michael Bourgoin au dessin. Superbe dessin, bien sombre, bien comme on vraiment les aime. C'est aux éditions Glénat, c'est un one shot, un thriller horrifique, fantastique, vraiment très impressionnant. On va suivre Alexandre, qui est un médecin. Il vit avec sa famille dans un immeuble assez cossu, etc. Apparemment, c'est dans un monde un petit peu futuriste. On n'est pas tout à fait dans, à notre époque. Et il part travailler en urgence. Donc, sa femme lui reproche un peu ça. Et en fin de compte, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a été radiée de l'ordre des médecins. Et donc, il travaille maintenant pour la pègre, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont braqué, par exemple, ou qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils ont été blessés, ils savent qu'ils peuvent l'appeler, ils peuvent appeler le docteur qui va les recevoir, va les soigner. Et c'est justement ce qui arrive au début. Il doit partir et il y a un homme qui s'est fait blesser, qui arrive avec son frère. Et du coup, ils vont le soigner. Lui a tout fait pour qu'on n'arrive pas à savoir qui c'est, ni qu'on arrive à faire le lien avec sa famille et à le reconnaître. Et puis, lors de cette intervention, où il est vraiment bien sécurisé normalement, il y a un homme qui arrive à rentrer très facilement dans ce repère que normalement est complètement bloqué. Et Zachary, donc c'est l'intrus qui arrive, il se présente comme un chasseur de vampires qui se serait fait mordre par un vampire justement et qui va donc se transformer en vampire si on ne fait rien, si on ne lui injecte pas une antidote spéciale. Un antidote spécial, pardon. Ben, du coup, là on est complètement dans un thriller horrifique, surprenant. Surprenant parce qu'on est dans un huis clos. En plus, on ne connaît pas les personnes, ils n'ont pas d'interaction de base, ils ne se connaissent pas non plus. Qui dit la vérité, qui dit des mensonges, il y a plein de doutes qui s'instaurent. Évidemment, lui, le docteur, veut se protéger au maximum, donc du coup, il va en dire le moins possible, mais en même temps, il a besoin d'être lui-même protégé, parce qu'évidemment, il y a ce Zachary qui éventuellement pourrait devenir assez violent et assez difficile à gérer et à maîtriser. C'est impressionnant de maîtrise, que ce soit point de vue scénaristique, où ça va nous en donner petit à petit des petites bribes sur les différents personnages, et puis en même temps des scènes de tension qui sont dessinées par Michael Bourgoin, absolument impressionnantes. On ressent les émotions, on ressent le stress, la peur, la violence aussi proposée par certains personnages. C'est impressionnant. Le Serment, c'est vraiment un chef-d'œuvre, je trouve. J'ai été happé complètement par l'histoire, complètement happé par les personnages. Et puis, on a envie d'en connaître davantage. On est pris dedans. De toute façon, vous ne pourrez pas le lâcher. Après, c'est quand j'avais dit rapide à lire, il y a quand même plus de 130 pages. Mais pour autant, on les dévore assez facilement une fois qu'on est rentré dans cet univers. Voilà, c'est comme un bon film noir. Lorsqu'on rentre dedans, on ne sait pas comment on va s'y échapper. Mais en tout cas, ce ne sera pas sans avoir des émotions et surtout sans avoir ensuite pas mal de réflexions autour de cet album. C'est vraiment un excellent album qui s'appelle Le Serment. C'est aux éditions Glénat. Je vous le recommande grandement. Que ce soit point de vue graphisme qui est proche d'un dessin un peu américain, vraiment bien sombre, bien noir, et puis d'un scénario ciselé, vraiment aux petits oignons. La couverture est impressionnante aussi, vraiment graphiquement, le tout est vraiment magnifique. L'album en plus en lui-même est beau, Glénat a vraiment fait un bel écrin pour cette histoire. Le Serment aux éditions Glénat est un pur bonheur de lecture que je vous recommande grandement. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais en tout cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire. Dans la série Survival, vous savez, ce sont des histoires où des personnes ont survécu, en tout cas un groupe de personnes, ou dans des situations plus ou moins difficiles, La Survival Gunayala. C'est un récit de Christophe Beck et des dessins de Mac Shatter. C'est aux éditions Soleil, dans la collection Fantastique. Là, cette fois-ci, la situation de départ, c'est un crash aérien dans une des forêts les plus dangereuses du monde, en Amazonie. Quelques-uns se sauvent de ça. Mais par contre, ils ne se connaissent pas non plus et certains vont être plutôt très positifs et essayer d'être solidaires avec les autres au maximum. D'autres, au contraire, vont essayer d'être plutôt félons et d'être plutôt essayer de tirer la couverture à eux pour eux se sauver et surtout ne pas sauver les autres. Donc on est dans une situation assez classique dans cette histoire. C'est assez agréable à lire, à part que je trouve que graphiquement j'ai eu un peu de difficulté des fois à apprécier le dessin. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a paru un petit peu figé, des fois un petit peu lourd par moment. Ça m'a un petit peu déçu. Je ne suis pas un grand fan de cette série, même si l'idée de base, je trouve, est intéressante. Prendre des situations dans des endroits différents et il y a toujours une situation de survie à faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, ici, on va évidemment parler de tout ce qui est dangereux dans cette forêt amazonienne, que ce soit les animaux, mais aussi les narcotrafiquants qui, évidemment, voient d'un mauvais œil qu'un groupe de personnes arrive dans leur lieu où ils se réfugient, où ils font leur méfait. Survival Gunayala, à vous de découvrir. Si vous aimez la série, évidemment, vous allez peut-être sans doute l'apprécier et l'acheter pour ça. Moi, j'ai été un petit peu déçu, mais bon, après, ce n'est que mon avis. À vous de découvrir si ça vous plaît ou pas. Hypersurveillance, enquête sur les nouveaux outils de contrôle. C'est de Julie Schlebing et Rémi Torigrossa. Alors lui au dessin et elle au scénario. L'hypersurveillance, c'est aux éditions Delcourt, hors collection. On va parler évidemment d'hypersurveillance, c'est avec Amnesty International, en partenariat avec Amnesty International. Et c'est de pareil, on est sur de l'anticipation, mais pas en fin de compte, non. On pense que c'est de l'anticipation au départ, mais non, on est surveillé de partout. Vous vous rappelez de Big Brother, donc de 1984, évidemment, là on est complètement dedans. C'est-à-dire, une question de base, est-ce que nos téléphones nous écoutent? Et là, il va y avoir une journaliste qui va enquêter pour savoir si, dès que vous parlez à quelqu'un au téléphone ou que vous faites une recherche au téléphone, est-ce que vos informations sont récupérées. Bon, ça, on le sait. Normalement, oui, c'est faisable. Et il y en a beaucoup qui utilisent ces informations pour, en particulier, aller récupérer d'autres informations et vous en envoyer, comme par exemple des publicités, etc. Mais est-ce que lorsque votre téléphone est éteint, à côté de vous, est-ce qu'il peut enregistrer des informations? Est-ce qu'il peut vous enregistrer en train de parler avec quelqu'un? Et c'est ça, en fin de compte, qu'on va essayer de voir. On va rentrer petit à petit dans tout cet univers-là et ça va devenir une enquête vraiment passionnante parce que évidemment il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne connaît pas obligatoirement si on n'est pas cybertechnicien, dirons-nous, et puis qu'on a des bribes, et puis il y a aussi beaucoup de choses qui se disent sans obligatoirement qu'on ait des preuves ou que l'on sache évidemment comment ça fonctionne. Donc, hypersurveillance, enquête sur les nouveaux outils de contrôle nous permettent justement de voir un petit peu ça. On va passer un petit peu partout, donc de Cambridge Analytica à Pegasus, en passant par l'arrivée des vidéosurveillances algorithmiques et de la reconnaissance vocale, évidemment. Toute cette surveillance de masse se fait de plus en plus. L'IA ne va pas apporter ça va être au contraire faciliter tout ça en plus. Donc évidemment, ça va plutôt apporter des dommages pour les gens qui ne veulent pas être surveillés, parce qu'en fin de compte, on l'est tous. On sait très bien que ce soit en vidéo, audio et ainsi de suite. Toutes nos données sont partagées. Donc c'est une enquête de science politique, on va dire, assez intéressant et puis très bien mis en scène parce que du coup, on est assez plongé facilement, même si à un moment donné, comme dans tous ces romans graphiques autour d'un thème, ça peut devenir un peu difficile didactiquement. C'est-à-dire que évidemment, il y a un côté technique qui est assez important, qu'il va falloir appréhender et qu'il va falloir donc il va falloir comprendre. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment un bon album donc de découverte autour de la cybercriminalité et de l'hypersurveillance donc qui est mise en place partout dans notre monde. Je pense qu'il y a quelques endroits où on nous voit pas, mais il faut vraiment aller les chercher. Donc ça, c'est aux éditions Delcourt. Et puis là, un récit plus classique, dirons-nous, parce qu'on est sur un thriller. Et c'est un thriller qui est tiré d'un livre. D'un livre, c'est Presidio, ça s'appelle. C'est de Simon Trains. Et c'est Jui Villanova qui le met en scène. En tout cas, c'est un livre à la base de Randy Kennedy. Et du coup, la Presidio est donc l'adaptation en album. C'est un one-shot. Et on va suivre Troy Falconer qui revient dans la ville où il a grandi. Une petite ville, vraiment un tout petit bled. Mais il voit que bah, c'est en déchéance de plus en plus. Et il va essayer de retrouver son frère en particulier. Il va le rencontrer, il va le retrouver après quelques années où ils ne se sont pas croisés. Et là, il apprend que la femme de son frère, justement, est partie avec le petit héritage qu'ils avaient reçu de leur père. Et donc, ils se mettent dans l'idée d'aller récupérer cet héritage et de traquer, du coup, cette femme. Et en même temps, on va comprendre un petit peu ce qu'est devenu chacun. Troy, lui, il est plutôt... voilà, c'est un gars qui est toujours avec une nouvelle voiture, etc. Bah oui, ça c'est logique. Il les vole, tout simplement. Il les vole, il va utiliser au maximum toutes les informations, enfin pas toutes les informations, tout le matériel qu'il a volé, l'argent qu'il a volé aussi en même temps. Et ensuite, il laisse tout et il reprend autre chose. Donc du coup, il laisse très peu de traces et il va pas aller trop loin pour pas qu'on le retrouve. C'est comme ça, c'est un petit truand, un petit gars qui avale pas mal pour justement avoir cette sensation de liberté tout en étant voleur et recherché éventuellement par la police. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est non plus. Quelqu'un lui a volé la voiture est retrouvée 500 miles plus loin et avec rien de dégradé dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et à chaque fois, c'est un petit peu la vie de Troy Falconer. Et on va avoir ce road trip. Alors, ce qui m'a un peu dérangé, moi, dans ce road trip, c'est que c'est plutôt intéressant et en même temps très classique dans sa façon de faire, dans la façon d'écrire. Mais justement, il y a beaucoup trop de textes du off, on va dire, c'est-à-dire ce que pense Troy, etc. Parce que c'est les parties du roman, je pense. Ce roman a été écrit un peu de cette façon-là et je trouve que ça manque justement... plus de communication entre les personnages et ainsi de suite pour juste mettre du texte. Alors il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Oui, mais à un moment donné, moi j'aurais bien aimé davantage donc de discussion entre les différents personnages, davantage d'approfondissement des personnages, mais par leur relation et par leur façon de parler, par leur interaction. Et ça, je ne l'ai pas eu. Donc peut-être que c'est une adaptation d'un roman, on comprend bien. Le roman, il faut garder ce côté littéraire du roman dans la bande dessinée, mais peut-être que surchargé trop par des textes en off, plutôt que d'essayer de les adapter pour faire vraiment des dialogues et de l'approfondissement de personnages. Je trouve, j'aurais préféré un petit peu plus... un petit peu plus d'adaptation, dirons-nous. Mais après, j'ai quand même apprécié le récit, qui, somme toute, est assez simple, mais les personnages sont plutôt sympathiques. Alors, il est sympathique tout en étant un voleur, quoi. Donc, en même temps, à vous de voir si vous le trouvez vraiment sympathique ou pas. Ça s'appelle Presidio. C'est un récit complet. Ça a été un avantage aussi. C'est qu'on ne va pas attendre la suite trop longtemps, vu qu'elle est déjà là. Et c'est aux éditions Delcourt. Et puis toujours aux éditions Delcourt, Cargo, Pavillon Barbare, c'est de Costès au scénario, Clément Belin au dessin. Et ça, c'est une histoire assez folle, assez délirante. On est encore dans un huis clos, parce que là, on est sur un cargo, là, cette fois-ci. Quand je parle de « encore dans un huis clos », c'est parce que dans le serment, on l'avait aussi, ce côté huis clos. À part que là, on est vraiment dans un cargo avec des marins complètement barges. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va suivre Stanislas. C'est un pilote. Il est élitreillier sur le MS Pandora pour le guider en manche. C'est ce qui se fait assez souvent quand un cargo arrive. Il connaît pas toujours, le capitaine ne connaît pas toujours les manœuvres à faire pour certains endroits. Et là, donc, il arrive dans la manche. Et puis, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas logique ce qui se passe sur ce cargo-là. Il y a quasiment personne. Il trouve personne. Il y a des gens qui sont enfermés dans des cabines, mais apparemment, ils sont devenus à moitié fous. Et il va essayer de comprendre tout ce qui va se passer. Et c'est là qu'on va découvrir petit à petit, et ça devient même complètement délirant, même à force, ce récit. Mais je l'ai apprécié parce que justement, il y a ce côté, on ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir. Tout peut arriver, en fin de compte, c'est un petit peu ça. Parce que le scénariste se permet d'aller assez loin quand même dans son histoire. Et du coup, ben, c'est agréable à découvrir, c'est original dans sa découpe. On s'y perd des fois un petit peu parce que du coup, on ne sait pas qui va... Il y a beaucoup de, comment dire, de turnover, enfin comment on appelle ça, de cliffhanger un petit peu ou... non, ce n'est pas cliffhanger, je cherche de twist. Voilà. Il y a beaucoup de twist où la situation va se retourner complètement, mais encore, elle va se retourner après par quelqu'un d'autre. Et ça devient un petit peu complexe. Mais voilà, on se laisse guider. Au départ, c'est la difficulté, c'est plutôt comprendre qui sont les différents personnages, une fois qu'on a compris ça, et quels sont leurs rôles, surtout dans le cargo. Parce qu'il y a le capitaine, mais il y a aussi le pilote, il y a aussi différents personnages. Et à un moment donné, après, tout va s'enchaîner. Il y a plein de choses qui vont être faites. C'est complètement fou en même temps, par moments. C'est des situations qui sont complètement irréelles. C'est ça qui est assez drôle aussi. Et en même temps, c'est assez dur parce que du coup, il y a quand même une histoire derrière qui nous montre la dureté de ces métiers-là, qui nous montre la dureté d'autres choses que je ne veux pas spoiler. Donc du coup, je ne vous en dis pas trop, mais les difficultés de certains, c'est vraiment, il y a de l'humain en même temps. Voilà, les personnages sont assez développés pour que l'on puisse vraiment... Soit on prend le dégoût complet parce que du coup on pense qu'ils sont vraiment dégoûtants et peut-être qu'ils ne le sont pas tant que ça, peut-être que c'est d'autres qui les montrent comme ça mais qui en fin de compte ne sont pas comme ça, et à l'inverse d'autres qui vont avec qui on va être complètement en empathie et avec qui on va vouloir qu'ils s'en sortent, ce qui ne va pas toujours être évident. Cargo, Pavillon Barbare est très original dans sa façon d'être écrit. C'est quand même un lieutenant de marine qui a écrit ça, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et Clément Belin, lui, nous offre un dessin un petit peu caricatural dans certains personnages parce qu'il aime bien les gueules, etc. Et donc, on les voit, ces gueules-là. On n'est pas sur un dessin tout à fait classique non plus. Quand un gars est costaud, il est costaud, quoi. C'est pas un petit... Il accentue un petit peu certaines caractéristiques physiques. C'est pour ça que je parle de caricature. C'est pas vraiment de la caricature, c'est qu'il va accentuer certaines spécificités physiques des personnages pour vraiment les mettre dans son récit. Moi, j'ai beaucoup apprécié Cargo, Pavillon Barbare. C'est original, drôle en même temps et touchant par certains moments, mais complètement fou. Donc, faites-vous votre opinion. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Ça s'appelle donc, ça fait un petit moment que c'est sorti, Cargo, Pavillon Barbare, mais comme j'ai beaucoup apprécié, je voulais quand même vous en parler. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. On enchaîne avec une BD originale dans son propos en particulier. Enfin, originale, c'est tiré d'un roman, donc du coup de Isabelle Barry. Mais je trouvais que le sujet est très original parce qu'en plus, on a un style graphique qui nous rappelle beaucoup les séries d'aventures de Spirou et autres. Donc vraiment très Dupuis. La preuve, c'est chez Dupuis. Mais là, ça, il s'agit de Zebrasca. Le premier tome s'appelle Un garçon pas comme les autres. Ce sera en deux tomes, ce sera un diptyque. C'est Eric Corbeyran qui a donc adapté le roman d'Isabelle Barry. Et c'est dessiné par Ludo Borecki, donc qui a vraiment un style comme on l'entend, du style Marcinelle. Et pourtant, le sujet est très original. On est dans un futur, on est en 2055 exactement, et on va suivre Marty. Marty est un jeune homme, un adolescent, un jeune adulte, on va dire, qui se sent pas tout à fait à sa place dans ce monde-là. Alors le monde est devenu complètement aseptisé, la lecture est interdite, il n'y a plus de livres, tout le monde est connecté à ces réseaux avec des lunettes ou des casques virtuels à n'en plus finir. Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment d'échange, il n'y a plus vraiment de communication qui se crée. Puis un jour, Marty va avoir un livre entre les mains. Malgré le fait que ce soit interdit, mais c'est un livre auto-publié de sa grand-mère. Dans cette BD qui s'appelle Zebrasca, il va découvrir donc l'enfance de son père. L'enfance de son père, et il va s'y reconnaître énormément. Parce qu'en fin de compte, son père va, donc grâce à cette BD, il va mettre des mots, en fin de compte, sur son mal-être, sur la façon dont il voit le monde, alors que lui n'est pas tout à fait comme les autres. Il est HPI. Son père était HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et les HPI, bah, du coup, ont une facilité à apprendre vite, donc ils s'ennuient assez souvent. On a l'impression qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Ils manquent d'organisation, de motivation, parce que du coup, ben, le fait de réussir tout, enfin de comprendre tout très vite, ben, ça ne nous motive pas à réécouter encore et encore des explications. Et souvent, ils vont aussi trop vite, parce que du coup, ceux qui sont HPI ont tendance à se dire voilà, je sais faire, ils vont le faire ça très vite. Et peut-être, du coup, davantage faire d'erreurs par moment. Et petit à petit, en lisant cet album de BD, ce livre, Marty va se reconnaître dans toute cette histoire. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très original, parce qu'on a vraiment l'impression que ça va partir sur une histoire d'aventure. Et en fin de compte, on est sur une histoire beaucoup plus humaine, beaucoup plus autour des relations, et qui va nous présenter donc ce phénomène HPI qui, du coup, n'était pas du tout reconnu avant les années 2000 quasiment. Enfin, si on le savait, mais on disait que c'était un génie voilà. Mais petit à petit, les neurosciences en particulier ont tellement été développées qu'on arrive à découvrir et à analyser si quelqu'un est HPI et comment il va pouvoir réagir et quelles sont les émotions qui vont être véhiculées, parce qu'énormément d'émotions évidemment aussi, vont être véhiculés par ces personnes, comme nous, hein, comme tout le monde, mais de façon différente. Et c'est là qu'est la difficulté pour quelqu'un qui est haut potentiel à pouvoir communiquer facilement, à pouvoir échanger facilement, parce que la communication, l'échange ne se fait pas obligatoirement de la même façon, surtout les pensées ne viennent pas de la même façon pour ces personnes donc qui ont un haut potentiel intellectuel. C'est du coup très intéressant parce que moi je m'attendais, lorsque j'ai vu la couverture, on voit un petit peu de science-fiction, on voit un ado avec un enfant derrière lui, on se dit bon voilà, ça va être une aventure, un frangin, deux frangins qui vont essayer de d'échapper à quelque chose. J'avais pas notion de ce que c'était. C'est toujours très bien de ne pas lire obligatoirement le résumé avant de lire un album. Et bah du coup, j'ai vraiment été surpris parce que le fait de le mettre dans cette situation-là et de le présenter de cette façon-là, on est sur un récit assez didactique du coup, donc on va comprendre petit à petit quelles sont les émotions véhiculées par ce trouble, enfin un trouble, c'est pas obligatoirement un trouble, mais en tout cas par ce haut potentiel. Et on va donc découvrir ça grâce à la vie de Marty. C'est très, et de son père, évidemment. Lui, il va faire du parallèle entre sa vie et celui de son père. C'est très, très beau. C'est très bien. J'ai hâte de lire la suite et la fin, du coup. Ça s'appelle Zebrasca aux éditions Dupuis. C'est surprenant parce que je ne m'attendais pas à cette histoire qui, comme je vous le disais, ben, du coup, m'a vraiment, vraiment surprise et donné de l'émotion. Ça s'appelle Zebrasca aux éditions Dupuis. Pour l'instant, il n'y a que le premier tome qui est sorti. On va attendre pour la suite.
Ouais. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day,
complètement délirant maintenant et complètement fou, ça s'appelle La Quête du Gras, exactement Mégalopoupos dans La Quête du Gras. C'est de Roland Temer au scénario, de Nicolas Toran au dessin et c'est aux éditions Hachette. Mégalopoupos est un cuisinier absolument génial mais qui du coup maintenant vit une vie paisible sur une île très douce, très tranquille, ça s'appelle l'île aux épices. Mais un jour, il se rend compte que tout a changé parce qu'il est complètement ruiné. En effet, il a fait des investissements qui n'ont pas du tout fonctionné, qui n'ont pas du tout marché. Et donc, du coup, il est obligé de quitter son paradis pour essayer de trouver, pour essayer de retrouver de l'argent. Et il va essayer d'aller vers la cité de Babylone. Alors, pour ça, il va prendre le paquebot Le France, et le voilà parti dans des aventures. À part qu'il est toujours suivi de son fidèle cochon qui s'appelle Mortabel. Et lorsqu'il monte sur le bateau, il n'a pas de billet pour Mortabel. Donc il va devoir commencer à faire la cuisine pour le bateau. En tout cas, couper les patates, parce qu'il y a déjà un cuisinier, il y a déjà un chef, qui est dans le bateau et qui est sur le bateau. Donc, Mégalopoupos, lui, se retrouve à faire le commis, juste à peler des patates pour que son cochon puisse faire la traversée avec lui. Mais un jour, la chef, justement, a un problème. Ouais, elle s'est mangée par une baleine. Donc, c'est un petit problème quand même. Et Mégalopoupos va donc être désigné. En tout cas, on va lui demander s'il veut bien faire le dîner de gala pour le capitaine du bateau et pour ses invités. Le voilà devenu promu chef de ce bateau. Et puis, ça va aller encore de pire en pire. On va lui proposer, enfin pas de pire en pire, mais d'aventure en aventure, de plus en plus rocambolesques les unes avec les autres. Il va participer à la Louche d'or, qui était un concours de cuisine pour lequel il va pouvoir éventuellement gagner encore d'être un peu d'argent et ainsi de suite. Et il va comme ça donc se balader, aller de ville en ville, de quête en quête, de mission en mission. C'est complètement délirant parce qu'on va même côtoyer certains dieux. Il va aller un peu partout. C'est vraiment, vraiment, vraiment plein de références, plein de joie, de drôlerie, de trucs absurdes aussi par moment. C'est complètement aberrant par moment la situation. Et en même temps, on l'accepte parce que c'est Mégalopoupos. Pourquoi je dis Poulos ? Parce qu'il n'y a que ça qui m'arrive. Et puis, le dessin très drôle de Nicolas Toran est très original et très coloré. Et ça, c'est agréable. Il y a vraiment des tons complètement fous dans certaines planches qui sont absolument sublimes. Et il faut vraiment partir vers un dépaysement total. On est vraiment sur un dépaysement total. On est vraiment sur une folie graphique comme une folie scénaristique. Et vous allez rencontrer plein de personnages très très drôle aussi. Donc il y a un mage par exemple qui est une forme de hérisson qui s'appelle Melchior Kepik. Donc c'est le gardien d'Excalibur. Donc vous imaginez bien, il y a tout ce qui est légende arthurienne et ça qui est complètement mélangé pour faire quelque chose d'un peu cuisine. Les gnomes tripaslicu, mini êtres terribles et facétieux. Donc tout ça, ce sont des personnages que vous allez donc retrouver dans cet album. C'est drôle, c'est truculent, ça me fait penser un peu à Gargantua. On est sur un personnage qui peut tout faire, qui sait tout faire, qui en plus est très musclé, qui peut combattre, mais qui peut combattre aussi avec sa cuisine. C'est un personnage hors norme qui nous donne un album assez hors norme aussi, qui est puissant, avec beaucoup de couleurs, comme je vous disais. Et on plonge, il n'y a pas de cases en fin de compte, tout est des grands dessins avec plusieurs cases, mais qui s'entremêlent les unes aux autres. C'est, voilà, on reçoit ça comme des grands tableaux qui vont nous permettre de suivre une histoire. C'est fou, c'est assez délirant et c'est très agréable à lire une fois qu'on est rentré dedans. Au départ, c'est tout calme et puis petit à petit, ça devient de plus en plus flamboyant, comme une sorte de, comment dire, de feu d'artifice, de couleurs, de truculence. Vraiment très impressionné par la quête du gras de Mégalopoupos aux éditions Hachette. Je vous le recommande, c'est très très original. Comme l'est le diptyque, maintenant on va dire que c'est un diptyque, un léger bruit dans le moteur que je vous avais déjà présenté. C'est un scénario de Gates et des dessins de Jonathan Munoz. Aux éditions Petit à Petit, qui a été suivi par maintenant un autre one-shot qui s'appelle Un léger goût sous le palais, de Gates toujours, et de Étienne Friis, cette fois-ci au dessin, avec quand même l'enchaînement des deux albums de Jonathan Munoz, celui qui avait donc fait Un léger bruit dans le moteur. Parce que dans Un léger bruit dans le moteur, on suivait, donc les deux sont évidemment chez Petit à Petit, on suivait un enfant qui allait du coup décimer tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont autour de lui. Il a envie de tuer tout le monde. Et petit à petit, il va il va se retrouver à tuer des gens sans des fois pas les tuer. Des fois, c'est des choses qui vont arriver. En tout cas, on est dans un truc très glauque, mais tellement, tellement jouissif dans ce côté humour noir, humour sombre. Et on va suivre ce gamin qui a l'air tout gentil, qui a l'air de vouloir aider les gens et qui au contraire veut les décimer. Mais des fois, c'est même pas lui qui va le faire, c'est la situation qui va changer, qui va le faire changer et qui va changer aussi certains morts, etc. Donc du coup, c'est un enfant qui tue des gens. Ça, je vous l'avais déjà présenté, j'avais adoré cet album. Et là, cette fois-ci, on va le suivre au début. On va suivre une fille, là, cette fois-ci, qui a le même âge. Et elle habitait dans un immeuble, au milieu des immeubles. Elle habite en ville, tandis que le petit garçon du premier tome, lui, on le voyait vraiment dans la campagne, dans une petite bourgade très, très crade, où il n'y a pas grand-chose qui est à faire. Donc, elle, au contraire, vit avec plein de monde autour d'elle, avec des gens, par contre, qui ne se connaissent pas du tout. Et en plus, il y en a plein qui se détestent, qui se jalousent, qui s'espionnent, qui se dénigrent. Alors, la petite fille, comme elle est de plus en plus... Elle vit dans ce monde-là, elle est de plus en plus haineuse et va établir un plan diabolique pour tuer tous les voisins et toute sa famille. Bon, du coup, on est quand même sur un peu le même style, à part que ça change d'endroit... Ça change graphiquement aussi un petit peu. Là, on est beaucoup plus en couleur. En particulier, la petite fille, elle est habillée en rose. Alors que dans le premier tome, c'était très sombre. Ça se passait souvent la nuit. Et c'est du ocre noir, bleu foncé, et ainsi de suite, dans le premier tome, qui était absolument superbement bien dessiné. Et là, du coup, ce n'est plus le même dessinateur, mais on est dans un côté plus rose, plus mignon, mais aussi cruel. Aussi cruel et aussi absorbant dans l'histoire, dans le machiavélisme, va-t-on dire, de cette gamine que l'on voit toute gentille et puis de temps en temps on les voit, mais comme le petit garçon dans le premier tome, et qu'on voit on est en train de regarder le visage, et là on voit le visage complètement changé avec un rictus de haine. C'est vraiment impressionnant graphiquement aussi. J'ai adoré les deux albums. Je trouve que les deux se complètent parfaitement. Et du coup, c'est vraiment, vraiment un très bon diptyque maintenant. Ça devient un diptyque parce qu'Un léger bruit dans le moteur et Un léger goût sous le palais peuvent se lire séparément. Mais, si vous lisez les deux, évidemment, il y aura un lien qui se fera. Comme je vous disais, Jonathan Munoz a fait le lien entre les deux albums pour que vous ne soyez pas ni dépaysés, ni que si vous avez adoré le premier, que vous puissiez suivre encore mieux le deuxième. Ça s'appelle donc Un léger goût sous le palais, c'est la nouveauté. Et la réédition pour la sortie de la nouveauté, Un léger bruit dans le moteur, c'est aux éditions Petit à Petit. Et vraiment des bons, bons, bons albums qu'il faut vous procurer de toute urgence si ce n'est pas encore fait. Un drame s'est passé dans le monde de la bande dessinée. On a perdu Titeuf. Du coup, il va falloir le retrouver. Et c'est ce qu'on va vous demander, évidemment, dans ce livre-jeu. On a perdu Titeuf avec Zep, qui est au scénario et créateur de Titeuf, évidemment. Mais il a laissé le crayon pour dessiner son personnage fétiche à Bûche, qui donc fait un album un petit peu à la « Où est Charlie ?». Là, ça va être « Où est Titeuf ?». On va avoir des grandes scènes qui vont nous présenter des centaines de personnages sur l'album complet. Il doit en avoir, oui, je pense, plusieurs centaines et peut-être même le millier. Mais alors, ça va être à la piscine, au sport d'hiver, dans une colonie de vacances, dans la cour de récré, évidemment. À chaque fois, il va falloir retrouver Titeuf et puis d'autres personnages aussi que l'on va essayer de trouver dans chaque page. C'est évidemment toujours aux éditions Glénat, c'est fait pour s'amuser, donc comme les « Où est Charlie ?». C'est plutôt original de le faire comme ça avec Titeuf, mais surtout, ce qui est original, c'est de laisser la main à un autre dessinateur et qui a vraiment un style assez proche de Zep. C'est quand même le dessinateur de Frankie Snow, qui était un surfeur des neiges, qui lui-même était déjà dans la bandade chaude. Donc on est vraiment sur un style graphique un petit peu rond comme ça, comme les Titeuf, même si on n'a pas tout à fait les mêmes traits, évidemment, dans les personnages. Mais comme il y en a tellement, on arrive à voir plein de scènes, c'est assez drôle, parce qu'il y a plein de situations très cocasses à trouver, et puis des anachronismes, etc. C'est vraiment un bel objet pour les fans, pour toute la famille. On va vraiment le feuilleter avec grand plaisir. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai appréhendé. Et ça fonctionne plutôt très bien. Ça s'appelle donc « On a perdu Titeuf ». Et il faut le retrouver aux éditions Glénat. Les Lapins Crétins, tome 18 de Dabz et Thomas Priou. Dabz au scénario et Thomas Priou au dessin. Et ce tome 18 s'appelle « Quel chantier ?». C'est édité par Glénat avec Ubisoft, bien sûr, parce que les Lapins Crétins, ce sont des personnages Ubisoft, en sachant que ce sont d'abord des personnages que l'on retrouve chez Rayman au tout départ dans le jeu vidéo. Bon, vous avez compris, c'est toujours des gags, c'est toujours drôle, vraiment bien écrit. Il y a des originalités dans certains scénarios, d'autres beaucoup plus classiques. Mais l'avantage des Lapins Crétins, c'est qu'on peut faire un peu ce que l'on veut. Et puis, ils sont vraiment crétins. Là, cette fois-ci, évidemment, quel chantier ? Ils vont être des instruments, enfin des personnages qui vont fabriquer, qui vont être sur un chantier, qui vont donc faire du BTP. Et puis, évidemment, ça va apporter énormément de truculence, de rigolade et de crétinerie habituelle. Donc The Lapin Crétin, tome 18, est sorti aux éditions Glénat. Et on va finir avec quelques albums, dont un qui est vraiment une nouveauté, un nouveau monde que vous allez découvrir, c'est Dina et le Millimonde. Le premier tome s'appelle Le Peuple du Grenier, c'est de Stéphane Lapuce au scénario, de Antonello D'Alena. Oui, bravo, bravo à moi. Et c'est aux éditions Dupuis, ce premier tome de Dina et le Millimonde. Vous l'aurez bien compris, on va suivre Dina. Dina est une jeune fille, une petite fille, qui vient en vacances dans sa famille, chez sa grand-mère exactement. Parce qu'elle vit maintenant toute seule avec sa mère, vu que son père a disparu. Et ils ne savent pas vraiment où il est. Donc elle va chez sa grand-mère, donc qu'elle adore. Elle est vraiment très très proche d'elle. Et un matin, elle se réveille Et là, elle se rend compte qu'elle ne fait plus que quelques millimètres et elle se retrouve donc en danger, évidemment. Et puis, surtout dans un monde où elle ne comprend pas pourquoi elle est comme ça. Et elle va rencontrer une sorte de ville de Lilliputiens, pareil, qui ont été réduits à une taille de très très petite, de quelques millimètres, tous. Et cela, elle va découvrir, et on va le découvrir depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Ça, c'est super intéressant parce que, évidemment, dès qu'on voit Dina et le mini-monde, on se dit « Ah bah ça va être un petit peu comme les mini-pousses, ça va être un petit peu comme Arthur et les mini-moïs. » Mais il y a autre chose parce qu'il y a vraiment une cohérence dans le fait que Dina se retrouve là. On sent qu'il y a quelque chose de caché, de latent dessous. Et puis surtout, on va développer beaucoup, certes, une quête initiatique où elle va devoir se renforcer moralement, mentalement en tout cas, pour pouvoir braver les difficultés qu'elle va rencontrer. Et puis on a toute cette relation avec sa grand-mère, sa nonna comme elle dit, où il va y avoir plein de choses qui vont lui rappeler son enfance qui n'est pas très loin parce qu'elle est là, elle est en pleine enfance, mais surtout l'esprit familial qui est très important pour elle. Et justement, on le sent que le père a disparu, il n'est pas mort, on ne sait pas trop, voilà. Peut-être que, et puis tout ça, ça va être vraiment une grande aventure, on le sent. Et c'est ce qui est bien dans le rythme de ce récit, c'est que Stéphane Lapuce arrive aussi bien à mettre des moments d'intensité et puis d'action dans son scénario et en même temps des moments plus doux, plus posés, et plus où on va réfléchir davantage, on va se poser, les personnages peuvent se développer pour exprimer tout ce qu'ils ressentent, et ça c'est plutôt intéressant. Le dessin d'Antonello D'Alena, je l'ai dit d'un coup, est vraiment très beau, très dynamique, et vraiment apporte tout ce qu'on a besoin, parce qu'il y a un côté très tendre dans ces dessins de personnages, et en même temps, le dynamisme, dès qu'il y en a et dès qu'il faut qu'il y en ait, est vraiment présent et c'est vraiment un pur bonheur de lecture. Dina et le Mini-Monde, donc, je m'attendais à avoir des choses déjà un peu vues. Et en fin de compte, pas du tout, pas du tout. J'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris, j'ai adoré ce récit. Vraiment, ça m'a apporté du bonheur, de plaisir de lecture. Il est superbe, le dessin est magnifique, le scénario est bien construit et nous donne envie de lire la suite. Ça, c'est vraiment important. Dina et le Mini-Monde, c'est un best-seller qu'il ne faut absolument pas manquer. Le premier tome est sorti aux éditions Dupuis. Je vous le recommande grandement. Ça s'appelle donc Dina et le Mini-Monde. Si vous êtes sportif, y a des albums qui sortent et vous savez évidemment que la plupart du temps, des albums un peu comiques autour du sport, ça sort chez Bambou. Et là, les rugbymen sont sortis. C'est le tome 24. On n'est pas meilleurs, mais on n'est pas les meilleurs, mais c'est pas les plus forts. Donc ça, c'est le sous-titre évidemment. C'est de Becca, toujours au scénario, Poupard au dessin. Et comme je vous disais, aux éditions Bambou, si vous connaissez maintenant cette série, évidemment, vous n'allez pas être dépaysé. Là, ils vont partir vers l'Asie. Du coup, ils ont été désignés pour aller au Vietnam, pour pouvoir, parce que le Vietnam a créé son équipe. Et du coup, il va falloir quelqu'un pour les affronter, les entraîner un petit peu pour devenir sparring partner, évidemment. Donc c'est cette équipe qui va, l'équipe de rugbymen qu'on connaît évidemment, qui va y aller. C'est toujours très drôle, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et surtout des personnages nouveaux comme la sophrologue et ainsi de suite qui rapporte quelque chose déjà d'une touche féminine davantage, même si il y a de plus en plus de gags autour du rugby féminin, ça c'est plutôt très intéressant. Parce qu'il y a aussi une équipe de rugby féminin qui s'est mise en place dans cette ville. Et ensuite, il va aussi y avoir quelque chose de plus peut-être émotionnel, je veux dire, où il y aura pas plus de pensée que d'action, on va dire. Voilà, un peu plus d'émotions qui vont ressortir des différents personnages. Donc les rugbymen, tome 24, toujours aussi bien dessiné, évidemment, mais ça, on le connaît. Un super bon dessinateur aussi qu'on connaît très très bien. C'est Bloz, et Bloz scénarise et co-scénarise exactement Ping. Ping, c'est évidemment sur le ping-pong. C'est avec Axel au co-scénario, dessin de Bloz et co-scénario de Bloz. Et le deuxième tome est sorti. Bon là, évidemment, le tennis de table est en grande recrudescence depuis le frère Lebrun aux Jeux Olympiques, évidemment. Et rien de tel qu'une série sur le ping-pong humoristique et en même temps qui nous apprend pas mal de petites choses. Parce qu'il y a un côté didactique sur différentes prises de raquettes, sur différents effets que l'on peut mettre sur la balle, etc. Tout ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, c'est vraiment plongé dans de l'humour. Et en même temps, le dessin de Bloz fait toujours merveille dans un dessin humoristique parfait que l'on a envie de voir et de revoir et encore de voir. Et ça tombe bien parce qu'il est assez productif, donc on le voit assez régulièrement, Bloz. Mais vraiment, Ping est une grande réussite si on aime évidemment ce sport. Et puis si on veut le découvrir juste, ça peut permettre quand même de le découvrir. Il y a même des pages à la fin un petit peu explicatives, un petit reportage qui vous permet de découvrir encore un petit peu plus l'arrière, j'allais dire le revers du tennis de table. Mais là, du coup, ça faisait un jeu de mots un petit peu nul. En tout cas, Ping, le tome 2, est sorti aux éditions Bambou. Et puis peut-être pour les un peu plus jeunes encore, mais qui vraiment fonctionneraient. Moi, j'ai adoré les lire pour toute la famille. Le démon de l'hiver de Tony Galmès, c'est aux éditions Delcourt. C'est un one-shot plutôt jeunesse. Et vous allez donc découvrir dans cette histoire une petite fille. Cette petite fille vient d'arriver avec sa maman dans un pays, elle est réfugiée, elle vient d'un pays lointain et elle vient de vivre dans l'autre côté du monde et en fin de compte elle arrive en France tout simplement. Et elle arrive pour habiter chez une vieille dame, il fait très froid, il neige, qui les accueille et qui leur dit de rentrer. Et lorsqu'elle leur dit de rentrer, elle dit « Oh là là, vite, rentrez, il fait un froid de démon dehors !» Et là, il n'en faudra pas plus pour que la petite fille croise un démon, le démon de l'hiver, et qu'elle va commencer à discuter, à jouer, à essayer de comprendre un petit peu où elle est, et lui va lui expliquer un petit peu où elle est. C'est plein d'imagination, plein de tendresse, beaucoup de tendresse j'ai trouvé dans ce dessin magnifique, tout en couleur, mais en même temps sobriété aussi. Voilà, il est tout doux, tout tendre, et je trouve que le scénario aussi est très tendre. C'est vraiment un très bel album qui va faire réfléchir les plus jeunes, qui va vraiment attendrir les un peu plus anciens. Vraiment, on est sur du bon sentiment, sur du beau dessin agréable à voir. Et la couverture est sublime, je trouve. Elle donne plein de choses à comprendre. Et je trouve que ce Démon de l'hiver est une belle réussite. Vraiment un livre que je vous recommande. Donc Tony Galmès, qui est espagnol, offre un très très bel album one-shot jeunesse qui s'appelle Le Démon de l'hiver, rempli de poésie et de tendresse que vous pourrez découvrir chez Delcourt. Il y a aussi de l'humour évidemment, mais poésie, tendresse, c'est vraiment les deux sentiments qui me ressortent le plus. Armel et Mirko, je vous avais déjà présenté ces trois premiers albums, parce que là c'est le tome 4 qui est sorti. Le cœur en mousse s'appelle ce tome 4, c'est de Loïc Clément et Anne Montel au scénario, Julien Arnal au dessin, et du coup c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Jeunesse aussi. On suit toujours Armel qui est une gentille tortue, qui a peur du noir, Mirko la luciole, qui a appris à vivre, alors elle a été complètement indépendante et elle a appris à vivre avec des amis, et en particulier Armel, ce qui lui permet de pas dans la nuit de pouvoir voir, parce que c'est une luciole, je vous rappelle Mirko. Donc du coup, ils ont appris à devenir amis et à vivre ensemble. Et là, ils sont maintenant en train de vivre en plein milieu d'une colocation avec plein de un peu de bordel. Chacun fout un petit peu son bordel dans tous les coins et ça va en exaspérer une. En effet, Armel, c'est la seule à ranger, parce qu'il y a Fabienne, Pépin et Mirko qui vivent avec Armel, mais chacun a ses travers. Il y en a qui laissent la vaisselle, qui ne rangent pas. Il y en a qui, plutôt que de ranger justement leurs affaires, vont chanter. Il y en a qui font des collections et en ramenant plein de choses complètement abracadabrantes, mais qui du coup prennent beaucoup de place. Et là, Armel, elle n'en peut plus. Donc, à un moment donné, elle range tout pour tout le monde, elle en a marre, et là, ça va craquer. C'est très beau aussi. Alors le dessin, tout en couleur et tout en couleur directe de Julien Arnel, est sublime comme d'habitude. Et puis je trouve que ces petites histoires qui paraissent simples mais qui font retranscrire beaucoup de choses que de la vie courante. Ça a été la solitude au départ. Après, c'est le côté, est-ce que je peux vivre avec quelqu'un? Est-ce que je peux accepter les défauts de l'autre? Et là, justement, il y a des défauts qui ressortent. Mais peut-être que l'entraide, là, va être le plus important. Peut-être que l'écoute de l'autre et l'entraide, ça va être vraiment les deux mamelles de cette histoire qu'il va falloir vraiment mettre en place. Armel et Mirko est donc une très très belle série que j'apprécie énormément, aussi bien graphiquement que par son écriture qui est intelligente, qui ne prend pas les gens pour des imbéciles parce que c'est pas trop simpliste non plus. Mais voilà, beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse chez Armel et Mirko. Bah, le tome 4 est sorti si vous voulez le découvrir. Ça s'appelle Le cœur en mousse et c'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Et pour finir, une série que je ne vous avais pas encore présentée, Le joli monde de Finette. Il y a deux tomes qui sont sortis. Le deuxième tome s'appelle N'aie pas peur du noir, Philibert. C'est de Nadia Berkane au scénario, Alexis Nem au dessin, et c'est aux éditions Oxymore. Dans ce second tome du joli monde de Finette, on va suivre Philibert, qui est un chasse, qui est plutôt sociable, agréable, bavard. Il adore raconter des choses à tout le monde. Il aime jouer à l'aventurier. Il a plein d'histoires à raconter. Et puis, en rentrant d'une balade, il passe chez Finette et Shifumi, qui est son lapin, un gros lapin plus grand qu'elle. Et donc, du coup, qui va discuter avec Finette et Shifumi. Mais un gros orage éclate et tout va être chamboulé. En effet, il commence à faire nuit, il y a un gros orage et Philibert va devoir rester chez Finette. Or, Finette dit « Bon, bah, il n'y a pas de souci, tu restes chez nous, c'est mignon, c'est cosy, il n'y a pas de souci. » À part que Philibert hésite, il a vraiment, vraiment… Et puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Il a vraiment peur du noir, il a peur de rester chez lui tout seul dans le noir, il a peur de rester chez quelqu'un tout seul dans le noir. Et là, Finette va essayer de l'aider à vaincre cette peur et redonner et donner même du courage à Philibert pour essayer de vaincre sa peur du noir et du coup peut-être même en plus passer des soirées avec ses amis plutôt que de rester tout seul chez lui enfermé. Finette, vous voyez, c'est un petit monde très mignon, très coloré que Alexis Nem met en image absolument de manière très ronde, en plus un format rectangulaire, donc un peu à l'italienne. C'est des petites histoires très mignonnes, vraiment pour les plus petits, mais en même temps qui se lisent très facilement pour les adultes. Alors c'est vrai que le propos, là il vaut mieux le lire avec des enfants, mais le dessin d'Alexis Nem et l'écriture de Nadia Berkane sont vraiment très bonnes, donc du coup on a envie de quand même le lire. Alors moi je les ai lus avec grand grand plaisir, j'ai lu le premier tome aussi qui s'appelait celui-là, là on va parler d'un ours, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, tiens, il s'appelle, bon je vais retrouver cette histoire. Là cette fois-ci dans le premier tome c'était Barnabé qui est un ours grognon qui solitaire, lui il vient d'emménager dans la forêt du Bois Joli où vit évidemment Finette, et Barnabé il veut absolument voir personne, donc il y a Finette qui va le voir quand même avec son grand lapin Shifumi, mais il ne veut absolument même pas le rouvrir et Finette va essayer de comprendre pourquoi il a cette réaction-là. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi dans cet album. C'est vraiment tout mignon, comme je vous disais. C'est Le joli monde de Finette. C'est un double album, donc du coup, enfin deux albums pour l'instant dans la collection Petite Luciole. C'est des BD jeunesse aux éditions Oxymore. Et c'est comme ça, avec ce petit bonbon, ce petit plaisir graphique et ce petit bonbon pour les enfants que nous allons fermer ce Bulle en stock.